Alors voilà, le souverain, c'est le peuple, la démocratie, c'est vous. Et ben, ça tombe bien, Radio Courtoisie est une radio extrêmement démocratique. C'est vous qui nous possédez d'une certaine manière. Nous sommes une association qui ne vit que par vos dons. C'est votre voix que vous écoutez quand vous écoutez nos émissions. Et ben, n'hésitez pas, vous êtes 1 500 000 et même un peu plus à nous écouter chaque semaine par tous les canaux possibles. Vous êtes un peu moins de 20 000 à nous donner. Ça ressemble un peu aux élections dans l'Allier. 311 communes avaient mis le Rassemblement National en tête il y a 2% législatif, visiblement il y a un loup. Voilà. Bon, n'hésitez pas, donnez-nous 1 euro, 2 euros, 5 euros. On ne vous demande pas plus, on sait que les temps sont durs. Soutenir.rc.fr, voilà, soutenir.rc.fr, ou si vous avez envie d'envoyer un chèque et un petit mot, on adore les lire à l'antenne. 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Eh bien, merci beaucoup pour cette page de publicité, Richard, mais je vous en prie. Et donc, on peut continuer. Maître de Janvry, restez-vous avec nous. Pierre de Nicolaï, vous restez avec nous. Je crois que vous étiez l'un et l'autre un peu pris par vos horaires, mais voilà, une fois de plus,
l'invité. Oui, je vais devoir partir en campagne, les sénatoriales, on est sur le terrain, donc on va faire la tournée, mais merci beaucoup pour votre invitation, et puis je laisse la parole.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Charles-Henri Gallois, donc il y a en ce moment, évidemment, Marine Le Pen, Jordan Bardella en campagne, cette prestation très réussie au MEDEF où bon, une partie des adversaires explique que pas du tout, personne n'a été convaincu. Il y avait un sondage OpinionWay juste avant les MEDEF qui expliquait que Jordan Bardella avait raté son pari. En fait, quand on parle avec une partie du patronat, on n'a pas du tout l'impression que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont tapé à côté de l'objectif.
Si vous voulez, c'est toujours pareil. Comme ils ont perdu la bataille culturelle, la bataille des idées sur l'immigration, la sécurité, il n'y a plus personne qui ose nous attaquer là-dessus. Ils emploient même les mêmes mots, mais bon, au niveau des actes, ils font l'inverse, on pourra certainement y revenir. Et donc, à part la gauche sur ces questions-là, en fait, on a une hégémonie et une légitimité qui est sans précédent. Il n'ose plus attaquer là-dessus, il ne parle très peu de ces questions-là, si ce n'est pour faire du révisionnisme sur leur action et la réalité des chiffres migratoires et sécuritaires. Et donc le dernier champ, en fait, où ils attaquent le RN, c'est l'économie, c'est par les caricatures. Parce que la réalité, c'est que moi, quand j'entends des personnes de chez Édouard Philippe, Gabriel Attal ou même Bruno Retailleau expliquer que le RN aurait un programme socialiste, enfin je veux dire, c'est eux qui ont voté depuis 10 ans des budgets qui augmentaient la dépense publique et la fiscalité. Le RN propose strictement l'inverse, en fait. Donc on voit bien que leur caricature ne n'arrive pas à passer la barrière des faits. Et les faits, en fait, c'est quoi? C'est pourquoi la prestation de Marine Le Pen a été réussie au MEDEF, c'est que les autres ont annoncé des mesurettes ou autres. Marine Le Pen, il y a un engagement très clair qui est de dire qu'il y aura une baisse de la dépense publique, mais c'est une baisse de 125 milliards d'euros nets de la dépense publique à horizon 5 ans. C'est ce qui permet d'ailleurs à la France de revenir sur la trajectoire budgétaire adéquate, c'est-à-dire qu'on puisse à nouveau être en excédent primaire, que le poids de la dette diminue. Et donc, il y a aussi l'annonce de la règle d'or, qui sont des engagements très forts, et je pense qu'on a été très écouté, très bien perçu par les chefs d'entreprise, et ce qui donne toute la crédibilité économique qui est au RN. Et en fait, moi, je pense que j'ai hâte, et peut-être sur votre antenne, pourquoi pas, débattre face aux macronistes ou même aux LR de leur bilan économique et budgétaire. Je pense qu'on va rigoler, on va voir qui a fait des mesures socialistes depuis des années avec un bilan qui est calamiteux. Je veux dire, quand vous aviez Gabriel Attal et Édouard Philippe co-responsable de 1 300 milliards d'euros de dette, les mêmes qui vont vous donner d'ailleurs des leçons de bonne gestion, c'est absolument grotesque. Et je veux dire là-dessus un point très important, c'est que ils vont nous dire, Édouard Philippe, j'ai été Premier ministre que de mi-2017 à 2020. Gabriel Attal, j'ai été Premier ministre en 2024, sauf qu'ils oublient que Édouard Philippe, c'est le président d'Horizon, Gabriel Attal, c'est le président de Renaissance, et ils ont soutenu pendant 10 ans tous les budgets. Donc ils sont évidemment comptables de l'intégralité du bilan. Et même si vous prenez les chiffres de Édouard Philippe, en fait, Édouard Philippe, il est marrant parce qu'il fait du révisionnisme sur tous les sujets, sur l'immigration, sur l'économie, il nous dit que c'est un bon gestionnaire. Mais en fait, quand vous regardez les chiffres, entre mi-2017 et, je suis gentil, j'enlève le Covid, fin 2019...
Et pardonnez-moi, mais pourquoi enlever le Covid? Parce que tous les pays européens ont eu les mêmes conditions et on est les pires de la bande, à part la Roumanie peut-être.
Je vais être plus honnête intellectuellement en enlevant le Covid. Sur cette période-là, on avait une politique d'assouplissement quantitatif de la BCE très favorable, avec forcément une progression économique très forte partout. Mais quand vous regardez le bilan d'Edouard Philippe, en fait, dès la première année pleine, il y avait le troisième pire déficit de la zone euro. La deuxième année pleine, en 2019, il y avait le deuxième pire déficit de la zone euro. Il avait plus un déficit qui est supérieur à 60% du déficit de l'ensemble des pays de la zone euro. Donc, c'est parce qu'on appelle un bon gestionnaire. Il va nous dire qu'il a baissé le ratio de dette publique sur PIB, mais en fait, il y a 19 pays de l'UE qui faisaient mieux à ce moment-là. Et il est arrivé 7e pire dette publique sur PIB. Il est en fin 2019, 4e pire dette publique sur PIB. C'est la même chose au niveau de la croissance, malgré le déficit abyssal. En fait, il était que sur toute la période mi-2017, fin 2019, c'était la 4e pire croissance de toute l'Union européenne. Donc, eux qui adorent faire des comparaisons avec l'Union européenne, faisons-les. Même pendant la période d'Edouard Philippe, des premiers ministres, en fait, c'est un bilan très médiocre. Et lui essaye de surfer sur cette période qui était avec une charge de la dette très faible parce que la BCE achetait à tour de bras. Et donc forcément, ça a amélioré les finances publiques de tous les pays. Mais quand vous regardez, vous comparez aux autres pays européens, c'est une catastrophe. Et c'est un très mauvais gestionnaire. Et il y fait ça sur tous les sujets. Je l'ai vu faire sur l'immigration, Edouard Philippe. Il nous explique... alors, vous avez peut-être vu ça, c'était extraordinaire, le débat Hollande-Philippe. Alors, ce que j'ai retenu, Edouard Philippe, censé être l'homme de droite, il nous expliquait qu'en cas de deuxième tour, Marine Le Pen, François Hollande, il voterait François Hollande. Bel homme de droite. Et il nous explique qu'il ne voulait pas de moratoire sur l'immigration. En fait, à chaque fois, il enfume les gens. Je veux la fermeté sur l'immigration. Mais en fait, il parle de l'immigration illégale. Il ne parle jamais de l'immigration légale, parce que pour lui, il faut plus d'immigration de travail, plus d'immigration d'étudiants. Je rappelle que l'immigration légale, c'est la plus importante en France. Vous êtes à près de 500 000 personnes par an. L'illégal, c'est moins important. Et je veux dire, même sur l'illégal, il a un bilan. Edouard Philippe, il était Premier ministre. Il a baissé le taux d'exécution des OQTF de 2 points. C'est médiocre. Et sur l'immigration légale, je suis désolé de le rappeler, là je vais être gentil, je pense que 2017-2019, l'immigration légale a augmenté de 25%. On faisait 2,5 fois plus d'immigration sous Édouard Philippe de droite que sous Lionel Jospin. En fait, Édouard Philippe est un ultra-immigrationniste. Un des motifs d'immigration qui a explosé, c'est l'immigration étudiante. Qui a fait le programme Bienvenue en France, qui avait vocation à accueillir à fin 2017 500 000 étudiants étrangers? C'est Édouard Philippe. Et le même, d'ailleurs, qui vous explique qu'il faut plus d'immigration étudiante, etc. Donc, c'est des gens qui enfument les gens, qui font du révisionnisme sur leur bilan. Et en fait, ils sont comptables de ce bilan qui est catastrophique. Et à côté de ça, vous avez le RN qui propose des solutions très concrètes en matière migratoire. On en a parlé, vous en parliez juste avant, si j'ai bien compris, d'un référendum en matière migratoire qui permet de reprendre entièrement le contrôle et avec une baisse drastique de l'immigration légale, et quand même le gros de l'immigration. Parce que je suis désolé, qu'on le veuille ou non, même l'immigration de travail... c'est même pas 10% des titres de séjour. Donc ces gens qui vous expliquent, je serai la raison, on a besoin d'immigration de travail, si on parle de 10% des titres de séjour, les 450 000 autres qui payent. Et après, quand vous regardez même à l'intérieur de ces titres de travail, c'est pas des ingénieurs, etc. C'est dans le BTP, c'est dans l'hôtellerie, la restauration, c'est des métiers où on manque pas de compétences en France. En fait, c'est tous les métiers qui sont en tension depuis 10 ans. En fait, c'est des métiers
c'est des
où l'immigration est utilisée pour faire pression à la baisse sur les salaires. Donc, c'est des métiers où on n'a pas besoin. Et même l'immigration de travail, d'une manière générale, quand vous avez 6 millions de chômeurs et à l'heure de l'IA qui remplace plein de travail, en fait, c'est vraiment une idée ringarde et c'est une méthode complètement d'arrière-garde. Mais ça ne m'étonne pas d'Edouard Philippe, qui est le copier-coller d'Edouard Juppé. On ne peut pas dire que ça respire la modernité.
Oui, mais même Emmanuel Macron, hein, son imaginaire technologique, c'est le TGV. Je veux dire, chaque fois qu'il a pris la parole, c'était le TGV, le Concorde. On a l'impression d'un mec des années 80. Je veux dire, c'est absolument terrible.
Ce sont des menteurs parce qu'ils vendent l'immigration. Ils disent, regardez, on a besoin d'immigration de travail. On prend l'exemple d'un médecin. Non, c'est l'immigration de travail, c'est pas ça. Encore une fois, c'est 10%. Si vous prenez premier titre de séjour, première demande d'asile, c'est 10% d'immigration. Le gros de l'immigration, c'est pas ça. Et après, quand on creuse un petit peu, ils ne veulent même pas toucher au reste, en fait. Alors, c'est un enfumage complet.
Alors, donc, l'immigration, on voit bien, effectivement, quand Gabriel Attal et Édouard Philippe nous expliquent qu'ils sont les champions de l'anti-immigration, qu'on on est un peu surpris, et le Rassemblement national a clairement posé les jalons qui lui permettent de s'affirmer comme étant ce parti-là. L'économie, ce sont des gestionnaires qui nous expliquent, en 2017, attention, avec le Rassemblement national, ce sera le chaos. Effectivement, le bilan est absolument glorieux, la dette est à 3 500 milliards, l'INSEE vient de sortir des chiffres absolument catastrophiques. scientifiques sur la croissance. Donc, on est en décrochage. Même les journaux économiques les plus favorables à Emmanuel Macron sont en train de parler de déconfiture totale, zéro réindustrialisation. Marine Le Pen, elle, a un programme économique qui est un peu... à l'inverse de ce que prônent LFI ou Europe Écologie Les Verts, qui eux sont véritablement socialistes. D'un côté, il y a Olivier Faure qui dit il faut que les entreprises continuent à se ruiner pour faire en sorte d'être les plus écologiques possibles et pas un fifrelin n'ira dans les caisses des PME, PMI et grandes entreprises si elles ne sont pas en train de se saigner aux quatre veines pour être plus vertes. Et LFI propose de rafler l'intégralité des héritages de tout le monde, enfin à partir de 12 millions. Et d'autres sont encore plus radicaux. Il faut taxer l'héritage dès le premier euro. Marine Le Pen, elle, a l'air d'être un peu moins socialiste que ça, quand même.
Mais Marine Le Pen, c'est le programme inverse. C'est-à-dire que vous prenez le programme de LFI, c'est pas seulement de la hausse de la fiscalité, c'est 250 milliards de hausse de la dépense publique. Et qui ne sont évidemment pas financés, parce qu'il y a 170 milliards de hausse d'impôts. Je veux dire, la taxe Jukman, c'est 15 milliards, donc c'est de hausse d'impôts pour tout le monde. De croire qu'avec 15 milliards d'euros, vous allez en taxant les riches, en sachant qu'en plus, il y a des effets de bord, parce que les riches, si vous les taxez, le capital immobilier, ils vont partir, donc c'est récessif pour l'économie. C'est stupide économiquement, mais même si vous prenez comptablement leur tableau Excel, en fait, ça ne marche pas. Il y a 170 milliards d'impôts, 250 milliards de dépenses publiques, et ils espèrent faire miraculeusement 52 milliards d'économies sur la fraude et l'optimisation fiscale. Bon courage pour le faire. Généralement, on estime qu'on peut récupérer 15 milliards maximum, donc c'est des chiffres fantaisistes. Et le reste, ce serait 52 milliards induits d'une fiscalité additionnelle du fait de leurs dépenses publiques, un effet multiplicateur de 1,4, alors qu'en France, on note depuis des années que l'effet multiplicateur est inférieur à 1. Donc en fait, oui, ça marche sur un tableau Excel, mais dans la réalité de l'économie, ça ne marche pas. En fait,
si on pouvait le retraduire en langage.
C'est de dire, en fait, l'effet multiplicateur, c'est un indicateur keynésien qui est de dire, en fait, vous faites 1 euro de dépenses publiques, ça va vous porter 1,4 euro. Sauf qu'on le voit depuis des années en France, on fait 5% de déficit et on ne fait même pas 1% de croissance. Donc le multiplicateur keynésien, de toute façon, ne marche plus en France depuis des années. Il est inférieur à 1. C'est du fait, notamment, de l'ouverture économique. En fait, c'est des programmes économiques qui marche en économie fermée, c'est la même chose. Hein. Si vous taxez les riches, bah, ce n'est pas une question de faire des cadeaux aux riches ou quoi, c'est qu'en économie ouverte, comme c'est le cas à l'heure actuelle, bah, ces gens-là, en fait, ils vont partir. Et c'est la même chose en économie ouverte. Si vous faites de la relance massive, mais que vous n'avez pas la base industrielle, vous n'avez pas la politique de l'offre derrière, c'est pour acheter des produits chinois, vous aggravez le déficit commercial, vous aggravez une fine de la dette publique, donc vous n'avez pas du tout l'effet multiplicateur qui est annoncé. En fait, ils vivent dans un monde parallèle, en fait, qui marcherait en économie fermée, et encore qui marcherait avec du sang et des larmes. Je ne peux pas dire, il n'y a pas d'exemple en fait, de pays concrets où ce type de politique marche. Donc au bout d'un moment, il faut regarder la réalité, il faut regarder ce qui marche, et le Rassemblement National parle de la position inverse, c'est-à-dire qu'il faut baisser évidemment la dépense publique, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut une politique, une vraie politique de croissance, parce qu'à l'heure actuelle, on est dans un système, ce qu'on appelle de trappe à dette. C'est-à-dire que vous avez la croissance nominale qui est largement inférieure au taux d'emprunt. Et donc, évidemment, vous pouvez baisser la dépense publique pour baisser le déficit, pour rendre tout ça moins douloureux, mais il y a surtout la question de relancer la croissance. Et le Rassemblement National propose 5 piliers majeurs pour relancer la croissance. C'est l'inverse, encore une fois, de ce que propose LFI et les autres, c'est qu'on veut baisser les impôts de production, que c'est les impôts les plus injustes et qui pèsent le plus sur l'industrie.
Une des promesses que Macron n'a pas tenues.
Bien sûr, il l'a fait au tout début, il s'est arrêté. D'ailleurs, quand le RN, lors du dernier budget, a proposé de supprimer les impôts de production, la C3S, validée par le budget, les macronistes ont fait revoter pour la supprimer. Donc, c'est les mêmes qui vous disent qu'ils sont favorables à la politique de l'offre et que le RN serait des socialistes. Enfin, ils devraient se fact-checker eux-mêmes et regarder la réalité des faits. Le deuxième pilier, c'est évidemment la simplification normative, qui est un engagement majeur du Rassemblement National, qui ne coûte pas un euro d'argent public, qui est une politique de dérégularisation, de simplification. Et il faut savoir que le coût d'application des normes pour les entreprises, c'est à peu près 120 milliards d'euros par an en France. Donc c'est un levier colossal et c'est quelque chose, quand vous parliez de politique de l'offre d'Emmanuel Macron, ce qu'il a donné d'un côté, en fait, il a repris de l'offre parce qu'il y a eu une inflation normative terrible sous Emmanuel Macron de plus de 30 milliards d'euros depuis 2017. Donc ça, c'est un chantier qui est colossal, qui peut permettre de redonner de l'oxygène aux entreprises sans dépenser un euro d'argent public. C'est très important à l'heure actuelle. La même chose, si vous rétablissez un prix national de l'électricité, ça a la double vertu de baisser les coûts de production pour les entreprises et de rendre de l'air pour le pouvoir d'achat pour les particuliers. Le quatrième levier, c'est celui de la commande publique. Hein. À l'heure actuelle, en France, en fait, la commande publique est très peu trustée par les entreprises qui produisent en France. Ça nous paraît être du bon sens et c'est un levier considérable pour la relocalisation, pour la réindustrialisation, pour la souveraineté industrielle. Ça, c'est quand même des marchés, je crois, plus de 150 milliards d'euros, si on parle de la France. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental et qui n'est pas fait. Et le dernier point qui nous tient aussi à cœur, c'est celui du fonds souverain, parce que vous avez tout un tas de PME, TPE en France qui ont de belles idées qui se développent, mais il y a un grand manque de capitaux, alors que la France est un des pays d'Europe occidentale qui a le plus d'épargne, avec 6 600 milliards d'épargne. Le Rassemblement national va proposer, évidemment sur la base du volontariat, de proposer aux Français, plutôt que d'investir sur un livret A qui est peu rémunéré, on vous propose d'investir dans un fonds souverain, d'être actionnaire, si j'ose dire, parce que ce n'est pas de l'actionnariat, mais de la Maison France, et de financer avec un meilleur rendement les entreprises qui produisent en France. Et on pense qu'avec ces 5 leviers-là, ça nous permettra de relancer la croissance, et c'est ce qui est nécessaire pour le pays, parce que évidemment que le Rassemblement national fera les efforts en termes de baisse de la dépense publique, mais il n'y aura rien de soutenable si on ne relance pas la production. Et comme le dit souvent Jordan Bardella, produire, 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 je pense que c'est les éléments essentiels si la France veut s'en sortir et veut rester une grande puissance au XXIe siècle.
Alors, quand vous déroulez ces 5 piliers, on sent en filigrane l'idée quand même d'une préférence nationale, même pas en filigrane, c'est très explicite pour au moins 2 de ces piliers. Maître, est-ce que là aussi, cette préférence nationale, indépendamment de la question du référendum sur l'immigration, est-ce qu'elle est possible en France ? Peut-on imaginer, avec l'état actuel du droit français, qu'on arrête de favoriser des achats au plus offrant et que, plutôt que d'importer du granit chinois, on s'occupe du granit breton? J'ai toujours été stupéfait de la manière dont on importait du granit chinois en France, en nous expliquant que ça coûtait moins cher. En plus, un granit qui est gélif, autrement dit, ça se pète quand il gèle, alors que le granit breton, non monsieur, ça ne pète pas. Est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer une préférence nationale?
Mais là, vous parlez des marchés publics, si je...
Marché de l'emploi. Vincent Youx, par exemple, avait imaginé que dans les marchés publics, il y avait cette clause de francité, c'est-à-dire on faisait en sorte d'expliquer qu'on ne pouvait embaucher que des gens qui étaient capables de parler français, parce que pour des règles de sécurité, c'est mieux. Et évidemment, ça devient compliqué d'embaucher du roumain ou de déléguer à une entreprise espagnole les produits des cantines. Vincent Youx avait imaginé aussi une autre chose qui était assez intelligente, parce que dans les appels d'offres publics qui passaient pour le Grand Angoulême, c'était par exemple de dire « on vous achète les fruits et légumes, mais vous organisez des visites des écoliers ». Ça faisait partie du cahier des charges. Évidemment, le producteur de tomates espagnol du côté de Salamanque était peu compétitif sur la manière d'organiser des voyages des écoliers angoumois. Voilà. Donc angoumoisins, pardon. Est-ce qu'on peut y aller ?
Alors je vais répondre. Alors que ce soit pour les personnes ou pour les produits, dans les deux cas, il faut distinguer si on est Union européenne ou pas. C'est-à-dire que si, hors UE, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on peut favoriser en l'état du droit. C'est plus facile de valoriser effectivement des Français ou des produits français par rapport à des produits hors UE. Et encore, j'avais une petite limite sur les marchés publics. Parce que les marchés publics, donc là je parle de produits, c'est qu'il faut, le principe c'est d'acheter le moins cher possible. Alors si votre granit, pour reprendre notre exemple, chinois est moins cher que le granit breton, vous êtes censé prendre le granit chinois. Alors il y a des règles où on peut dire finalement, c'est pas le prix que je vais regarder en premier, mais je vais quand même prendre en compte aussi la qualité. Alors là, vous pouvez peut-être jouer là-dessus, mais à un moment, vous êtes bloqué par les règles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « je veux du breton ». Ça, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Et alors, quand on touche à l'Union européenne, c'est encore plus compliqué parce que c'est un marché intérieur et vous n'êtes pas censé faire la discrimination vis-à-vis des autres pays européens. Donc là, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. On ne peut pas le faire de manière franche.
Même à droit européen constant, en fait, vous pouvez jouer sur les critères. En France, c'est très peu fait. Il y a des pays comme l'Allemagne qui jouent beaucoup plus sur des critères. Je suis d'accord sur le principe général d'avoir une interdiction générale. Ce n'est pas possible en l'état du droit européen, mais vous pouvez jouer sur des critères de type environnementaux. Vous pouvez jouer sur le critère aussi qui a été évoqué et jouer sur ces règles-là avec des consignes très claires données par l'État. Et ça, c'est fait en Allemagne. En France, c'est très peu fait. Et c'est même l'inverse. Vous avez des règles tellement... précautionneuse en termes de conflits d'intérêts et autres, qu'en fait, s'il y a la logique inverse en France, ça veut dire je veux pas de problème, en fait, donc je vais limite acheter le plus loin possible pour ne pas être repris par rattrapé par la patrouille. Et ça, c'est un vrai problème, ce qui n'existe pas en d'autres pays européens. Donc il y a des choses qui peuvent être faites pour.
Alors, sur les critères, vous avez raison. Alors, je vais un tout petit peu aller un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. De mémoire, parce que là, j'ai besoin. On peut privilégier le local.
Bien sûr.
Donc, c'est pas français. C'est par exemple, je suis une petite commune. Tout à fait justifié que je vais acheter à côté. Je n'ai pas acheté en Allemagne. Et là, vous pouvez, comme vous l'avez dit, jouer sur l'environnement. Parce que finalement, le camion qui apporte d'Allemagne ou d'Espagne, ça coûte plus cher, ne serait-ce que pour l'environnement, que le camion qui vient de la commune d'à côté. Donc, on peut jouer sur ces critères-là. Et vous avez raison, on peut utiliser ça. Mais il ne faut pas non plus que ça soit... Faut pas que ça se voit trop, en fait.
pardonnez-moi, maître, mais on voit bien, effectivement, et vous avez raison de le souligner, Charles-Henri Gallois... En Allemagne, c'est institutionnel. En fait, il y a des gens qui savent, à l'intérieur des règles européennes, favoriser systématiquement leur pays. Et la France est dévorée par le démon d'être le premier de la classe européiste, le premier de la classe unioniste, et donc de ne jamais favoriser la commande nationale, même quand elle est possible.
Bien
c'est,
sûr,
c'est ça aussi sur lequel joue le rapport
national. Bien sûr, il y a un vrai problème, et il y a un problème de patriotisme économique, je veux dire. Quand il y a des fleurons nationaux qui partent, il y a parfois, on pourrait parler d'élargir le décret Montebourg, mais il y a des fleurons nationaux qui auraient pu être bloqués par le décret Montebourg et les gouvernements macronistes ne l'ont pas fait par idéologie. Donc il y a une part d'idéologie, il n'y a pas qu'une part de droit, il y a toujours une part de volonté politique. Et on voit qu'au sein de l'Union européenne, qui n'est pas sans poser problème et qui doit être réformée sur un tas de sujets, on voit qu'au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui s'en sortent bien mieux parce qu'ils défendent leurs intérêts. C'est notamment le cas de l'Allemagne sur les marchés publics.
On a parlé de la commande publique, vous nous avez parlé de ces cinq piliers. Je voudrais revenir sur la question de l'héritage, parce que ça fait vraiment partie des marqueurs en ce début de campagne où on avait l'impression que l'héritage c'était un ensemble de lois assez iniques où l'État considère que après avoir spolié les Français de la moitié de leur salaire ou de la moitié de leur revenu pour les libéraux, les professions libérales, il avait encore le droit de piquer l'argent de la personne qui pourtant entre les impôts directs et indirects à un taux de prélèvement absolument hallucinant. Et donc les uns disent supprimons totalement l'héritage, les autres disent mais pas du tout, au contraire, taxons dès le premier euro hérité. Quelle est la position du Rassemblement national sur cette question de la solidarité intergénérationnelle d'une certaine manière?
Alors, nous ne sommes pas pour taxer davantage d'héritage qu'il y a des gens en France. Parmi les taux les plus importants au sein de l'Union européenne. Après, on ne peut pas non plus promettre n'importe quoi. Il y a une situation budgétaire qui est difficile. Et donc, évidemment que notre philosophie, ce serait plutôt de baisser la majorité des impôts. Mais il faut étudier la copie budgétaire globale et on reviendra vers vous, notamment lors du contre-budget. Mais en tout cas, la philosophie, c'est clair pour nous, c'est pas de hausse. Et ça me paraît assez démagogique. De taxer encore sur l'héritage, surtout pour des sommes, encore une fois, qui sont dérisoires par rapport au montant des enjeux. Quand je vois Raphaël Glucksmann qui nous dit qu'avec 15 milliards d'euros, il va augmenter les salaires nets. Il va augmenter les salaires nets de quoi avec 15 milliards d'euros, en fait? Il va les augmenter de 30 euros par mois, même pas, en fait. C'est pas à la hauteur des enjeux, en fait. C'est à chaque fois, c'est comme la taxe Zuckmann, en fait, on nous fait croire, à gauche, on nous fait croire qu'il y aurait des recettes magiques. En taxant l'héritage, en taxant les riches, on pourrait tout dépenser. Donc vous avez 150 milliards d'euros de déficit. Et quand vous proposez 250 milliards d'euros de plus de dépenses publiques, comme le fait LFI, en fait, les chiffres ne cadrent pas au bout d'un moment. Donc il faut arrêter de croire aux recettes magiques de taxation des riches qui, encore une fois, je ne me pose pas sur une question morale, il y a une question aussi d'efficacité économique. En monde ouvert, ça peut vous paraître séduisant de dire qu'il faut taxer les riches, mais en fait... Vous avez déjà une concentration massive de l'impôt sur le revenu, par exemple, parmi les foyers fiscaux les plus riches. Je crois que c'est 10% qui payent quasiment 50%. Donc, mais au bout d'un moment, si vous faites du matraquage fiscal sur eux, vous êtes dans un monde ouvert, les gens ils vont partir. Et donc, en fait, vous avez une assiette fiscale qui va baisser, vous allez augmenter les taux, mais c'est l'effet de taxe l'affaire, trop d'impôts tue l'impôt. Et vous allez avoir une assiette fiscale qui vont être moindres et des rentrées fiscales qui vont être moindres et des taux plus importants, en fait. C'est ça qu'il faut expliquer, parce que c'est très simple de dire de façon... puis moi, je ne suis pas là pour défendre les riches, c'est une question d'efficacité économique. Il faut vendre un projet global aux Français. Je ne pense pas que c'est en opposant, comme le fait la gauche, les riches, les pauvres, etc. Il y a besoin, au contraire, d'une, d'une union nationale, et c'est ce que propose le Rassemblement national. Et je pense que toutes ces postures, au-delà des postures de division, sont des postures profondément démagogiques et qui ne marchent dans aucun pays, en réalité, sur le plan économique.
Alors, le camarade Macron nous laisse une France quasi ruinée. On parlait encore de la croissance qui est catastrophique. L'INSEE disait que le pouvoir d'achat des ménages avait baissé de 0,6% au deuxième trimestre, après moins 0,2% au premier. Donc, autrement dit, les Français s'appauvrissent, la France est appauvrie. Dans les 100 premiers jours de Marine Le Pen, quel est le pilier que vous allez activer immédiatement? Est-ce que c'est la simplification administrative qui va desserrer en fait une partie des taxes, une partie du coût en fait de la paperasse?
Bien sûr, la simplification normative, et vous savez qu'il y a une équipe qui travaille dessus avec l'idée de pouvoir publier un maximum de supprimer tout ce qui peut être supprimé par décret, le faire par décret, et après quand c'est par loi, le faire par loi. C'est évidemment un des grands enjeux de l'Assemblée nationale. Il y a aussi sur le plan de la fiscalité, pour baisser les dépenses contraintes, de baisser la TVA sur l'énergie. Il y a le choc de compétitivité avec la baisse des impôts de production. Donc il y a tous ces chantiers-là qui doivent amener un choc de compétitivité, relancer et redonner de l'air en fait, à l'économie française qui en a bien besoin. En fait, Emmanuel Macron, le bilan, honnêtement, enfin, quand vous prenez tous les indicateurs économiques, c'est parmi les pires d'Europe à chaque fois. Donc je veux bien qu'il nous fasse à chaque fois l'excuse du Covid, de la guerre en Ukraine, mais quand vous prenez le ratio d'aide publique sur PIB de l'Union européenne, malgré la performance de la France et tous les autres pays, est-ce que je sais si j'ai connu la guerre en Ukraine et le Covid, il a baissé. En France, ça a augmenté de 16 points. Donc leur excuse de la dette, parce qu'on a eu des crises, ça ne tient absolument pas à la route. En fait, ils ont une performance qui est médiocre. Ils ont le pire bilan des finances publiques d'Europe. Et c'est la même chose, ils nous parlent de réindustrialisation en permanence, ils font du révisionnisme pour essayer de sauver un bilan. La réalité, c'est que la production industrielle, elle est 3% inférieure à ce qu'elle était à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, donc il n'y a pas eu de réindustrialisation. Et sur le taux de chômage, on va quasiment arriver au niveau d'Emmanuel Macron, donc pas de baisse réelle du taux de chômage. Si vous prenez le nombre de demandeurs d'emploi, c'est toutes catégories confondues, c'est le même. Et surtout, quand vous comparez encore une fois aux pays de la zone euro, il y avait un écart de 0,2 points taux de chômage, et il y a un écart maintenant de quasiment 2 points. Donc c'est-à-dire que tous les pays ont amélioré leur performance, et même cet indicateur-là, qui est celui que brandissent les macronistes en permanence du chômage, c'est un échec majeur quand vous comparez aux autres pays européens.
Les pays qui ont subi les mêmes contraintes du Covid et de la guerre contre l'Ukraine, qui font partie du narratif d'un Macron qui est empêché d'agir, ont mieux performé, comme dit un macroniste moyen, qu'Emmanuel Macron. Vous vouliez intervenir?
Oui, à commencer par l'Italie, sauf faire de ma part. Maintenant, le PIB par habitant de l'Italie est égal au PIB par habitant français, ce qui était, alors qu'il y avait plus de 10% d'écart il y a quelques années.
C'est même pire que ça, c'est-à-dire que le PIB par habitant de la France maintenant est inférieur à celui de la zone euro.
C'était, on est en dessous de la moyenne.
C'était pas le cas. Et ce qui d'ailleurs, et là on est en pleine période de renégociation budgétaire de l'Union européenne, quand vous avez le PIB français par habitant qui est inférieur à la moyenne de la zone euro, et le fait que quand vous prenez qui bénéficie du marché unique, c'est-à-dire que vous prenez le solde des transactions courantes, la France est déficitaire depuis des années, il n'y a plus aucune raison que la France soit le deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne derrière l'Allemagne. En fait, c'est un pays maintenant quasiment pauvre de l'Union européenne. Donc je pense que c'est le moment de revoir les règles de calcul, et que ça légitime et que ça justifie d'autant plus la proposition du Rassemblement national qui est décriée. On nous dit que c'est impossible de baisser la contribution au budget de l'UE. Bah, bizarrement, l'Allemagne et les Pays-Bas qui bénéficient massivement de l'Union européenne, eux, ils ont pu obtenir ce rabais et la France ne pourrait pas l'obtenir.
C'est ça qui est fascinant en fait. Chaque fois que le Rassemblement national propose quelque chose, les sachants disent que ce n'est pas possible, alors qu'en fait c'est possible. Ce n'est pas possible de renégocier un accord avec l'Algérie, d'autres pays renégocient leurs accords d'une manière bilatérale. Ce n'est pas possible d'exécuter les OQTF, d'autres pays réussissent à exécuter les OQTF.
C'est pareil, on nous dit que de couper les prestations sociales non contributives aux étrangers, ça ne rapporterait pas d'argent. Ah bon, comment ça se fait? Et puis après, quand ça ne rapporterait pas d'argent, on nous dit que ce serait raciste. Mais déjà, ils confondent préférence nationale, nationalité et race. Donc c'est des gens comme Antoine Léaumont que j'ai vu, qui ont deux de QI, qui confondent ça. Et surtout, c'est se moquer du monde, parce que ce principe-là, il est appliqué dans une majorité de pays du monde, et notamment dans les pays du Maghreb. Est-ce que Antoine Léaumont va nous dire que les pays du Maghreb sont des pays racistes?
Pas sûr.
Je ne pense pas.
Je ne pense pas. Mais quand c'est la France, on serait un pays raciste.
Charles-Henri Gallois, dans cette nouvelle configuration, donc il y a un effort budgétaire à faire et donc on ne peut pas baisser d'un coup toutes les dépenses de l'État. On ne peut pas non plus baisser d'un coup toutes les ressources de l'État, c'est-à-dire on ne va pas brusquement faire un choc fiscal. Comment, dans le délicat équilibre qui consiste à malgré tout faire en sorte que le train de vie de l'État diminue et malgré tout d'avoir des investissements qui permettent de relancer la croissance, comment arbitrer entre les sommes qu'on ne va plus dépenser et les sommes qu'on doit dépenser?
Encore une fois, nous, j'ai expliqué les 5 leviers pour relancer la croissance. Nous, on se base sur la dépense publique pour relancer la croissance. On dit qu'il faut faire des économies en net. J'ai dit 125 milliards d'euros net, horizon 5 ans d'économies sur la dépense publique. Évidemment que ça pourrait avoir un effet récessif potentiellement, mais nous on va aller chercher sur la mauvaise dépense publique, je veux dire la contribution à l'Union Européenne, c'est quelque chose qui part hors de France, donc si vous la coupez, il n'y a aucun effet récessif. Les subventions aux panneaux solaires et éoliennes chinois, je ne pense pas que ça fasse du mal au portefeuille des Français. En fait, vous avez tout un tas d'économies, les prestations sociales non contributives aux étrangers, ça fait pas de mal au portefeuille des Français, ça fait mal au portefeuille des étrangers, mais je veux dire, quand on a un niveau de finances publiques, on ne peut pas avoir une solidarité avec la terre entière. Quand vous faites des subventions aussi publiques, l'aide au développement aux pays étrangers, ça ne coûte pas, ça ne fait pas un euro d'effet récessif pour la France. Donc en fait, vous avez comme ça des bonnes économies qui peuvent être faites, et à contrario, je pense qu'il y a des dépenses additionnelles qui vont être faites, notamment le budget de la justice, qui est à l'os depuis des années. On doit construire des places de prison, ne serait-ce que pour mettre en place notre programme de fermeté et de mettre fin au laxisme judiciaire qui a cours depuis 10 ans en Macronie. Il y a des budgets qui doivent être augmentés, mais globalement, il faut baisser massivement la dépense publique, et vous pouvez le faire sur des postes, encore une fois, qui ne touchent pas au portefeuille des Français, parce que je vois qu'on parle beaucoup de sujets des retraites et autres, mais la réalité, c'est que pour nous, il serait socialement inacceptable, en fait, de demander des efforts à la France qui travaille ou qui a travaillé avant d'avoir mis fin à la gabegie de l'État. Enfin, je veux dire, quand vous faites à l'heure actuelle, comme fait Sébastien Lecornu, vous déremboursez les soins dentaires pour économiser, je crois, quelques centaines de millions d'euros, mais que vous gardez l'AME pour 1 milliard d'euros pour les étrangers, on peut comprendre que les Français n'aient pas envie de faire des efforts. Je veux dire, il y a déjà, une fois qu'on aura mis fin et qu'on aura drastiquement baissé le train de vie de l'État et qu'on aura mis fin à la gabegie, des questions pourraient se poser, mais je pense que c'est inacceptable socialement pour les Français qui voient bien qu'il y a de la gabegie à tous les étages, de leur demander toujours, encore et toujours plus d'efforts alors qu'il y a ces poches d'économie que nous, on ira chercher.
Maître Jean-Ry, une réflexion sur ce programme économique et sur la manière dont on peut le recevoir et se dire qu'il va être appliqué?
Alors, mais c'est, j'ose pas aller sur l'économie, mais à ce point-là, mais c'est quand vous parliez effectivement de ce qu'on peut faire vis-à-vis de l'immigration des étrangers, les économies sur les aides sociales. Moi, il y a un truc qui me choque personnellement, c'est les logements sociaux. Les logements sociaux, n'importe qui sur le territoire français, alors quand même régulier, y a droit. C'est-à-dire que pourquoi c'est pas les Français, les résidents citoyens français qui ont le droit.
D'autant plus, juste pour préciser, que les logements sociaux, il faut savoir que la demande est bien supérieure à l'offre. C'est de telle sorte qu'en fait, vous priorisez des étrangers alors qu'il y a une demande nationale qui est bien plus importante. Exactement. Je veux dire, c'est pas s'il y avait plus de logements sociaux que de demandes aux Français éligibles. Pourquoi pas? Mais là, il y a une anomalie qui me paraît assez fondamentale.
Bien sûr, c'est absolument anormal. C'est-à-dire que vous avez, dès lors que vous êtes en France, alors quand même régulièrement, je tiens à préciser, vous avez le droit un logement social, autant que le Français qui est né sur le territoire, qui vit depuis qui cotise, qui a sans doute payé des impôts, lui, ils sont à égalité, voire peut-être pas, parce que vu que les communes, ce sont elles qui décident, vous n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, ce sont elles qui décident comment les attribuer, il y a un système de points. Et à Paris, le système de points en fait est fait plus que finalement, ce sont vraiment.
C'est une préférence. On voit dans l'évolution du taux d'occupation. Encore une fois, il y a plus de demandes, même de nationaux que d'étrangers. Quand on voit le pourcentage d'occupation des étrangers logements sociaux qui ne cesse de monter, on n'assiste pas à une préférence nationale, mais une préférence étrangère. Ce qui est quand même hallucinant dans n'importe quel. On ne verrait pas ça dans n'importe quel pays du monde en fait. Et en France, il y a ça. Donc nous, évidemment, on rétablira mettra en place plutôt une priorité nationale sur les logements sociaux.
Via l'aide médicale d'État, comme vous l'avez dit, ça c'est aussi, sauf de ma part, il n'y a que la France qui a ce système-là. C'est-à-dire que quand même, pour bénéficier de l'aide médicale d'État, parce qu'un jour, je me suis amusé à le faire moi-même, je veux bénéficier, il faut justifier être sur le territoire de façon illégale. Oui. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que pour bénéficier d'un droit, il faut prouver qu'on a violé le droit. C'est quand même assez particulier comme système.
Et dans un pays normal, je veux dire... il y a déjà un panier de soins qui est beaucoup plus faible. Évidemment qu'on ne va pas laisser mourir les gens, donc les autres pays n'ont pas une AME, mais ont une aide médicale d'urgence. Et en fait, ce devrait être un... je suis désolé, quelqu'un qui viole la loi, il a vocation à retourner dans son pays d'origine, on devrait, au contraire, se servir des gens qui sont inscrits à l'AME pour avoir un fichier pour expulser les gens. Au bout d'un moment, je veux dire, il y a des gens qui vont dire c'est le respect de la loi. Si on considère qu'on n'applique plus la loi, on n'est plus dans un état de droit. Et la France... depuis des années, par un faible taux d'application des OQTF, par un laxisme migratoire, et là je parle même de l'immigration illégale, mais ça vaut pour l'immigration légale, on n'est plus dans un état de droit qui fonctionne. Mais ça paraît normal à tout le monde, en fait. Quelqu'un illégal, il peut aller se faire soigner, il n'y a pas de problème, et ce serait un scandale si on l'expulsait. Mais en fait, il y a un renversement des valeurs complet.
Oui. Puis il sort de l'hôpital et puis il peut rester sur le territoire, alors qu'en plus on sait que lui, pour le coup, il est pas censé rester sur le territoire.
Ça pourrait être très, très facile pour justement pouvoir maintenant, on a le droit grâce à la directive retour au Parlement européen de faire des retours groupés, ça pourrait être un bon endroit pour faire des retours groupés.
Et là, je me permets de rebondir sur des critiques qu'on va alors quand je dis nous faire, parce que vu que je suis à l'UDR, je me mets dans le même panier, c'est ah mais finalement c'est terrible, il y a quelqu'un qui est dans la rue, qui fait une crise cardiaque, vous allez refuser de le soigner. Mais absolument pas, c'est absolument pas ce qui va, c'est absolument pas ce qu'on pose, dans n'importe quel pays du monde vous allez le soigner.
Merci d'avoir rassuré tous les auditeurs.
C'est important parce que c'est les caricatures que font souvent la gauche en essayant de se faire passer pour des humanistes, alors que c'est les mêmes qui vont par l'immigration illégale, favoriser tous les trafics de passeurs, qui favorisent eux-mêmes les morts en Méditerranée. Donc c'est l'inverse de l'humanité. Pareil, de faire venir des pauvres gens pour l'immigration de travail, faire pression à la baisse sur les salaires, c'est de l'esclavagisme moderne, en fait. Donc c'est l'inverse de l'humanité, mais c'est des gens qui se prévalent de valeurs humanistes et qui, derrière, vont caricaturer des positions qui sont des positions de bon sens. Évidemment que personne ne dit qu'il faut laisser mourir les gens dans la rue. C'est pas l'objet.
Merci Charles-Henri Chagol. Je crois que vous avez hélas d'autres obligations et que vous allez nous quitter. Exactement. Mais ça tombe bien, Thierry Mariani, eurodéputé RN, nous a rejoint. Donc merci et effectivement, je prends votre promesse au mot. Vous reviendrez parler du programme une fois qu'il sera sur la table. Bonjour Thierry Mariani. Bonsoir d'ailleurs.
J'essaie d'être au milieu.
Voilà, non, c'est bon. très bien, ne bougez pas, vous êtes parfait. Voilà, on a parlé avec Maître de Janvry, Chopin devant Janvry, pardon, excusez-moi, je finirai par y arriver d'ici la fin de l'émission. Déjà, j'arrive à ne pas me tromper sur votre nom, ce qui est absolument extraordinaire. Nous avons parlé de la possibilité d'un référendum sur l'immigration. Avec Pierre de Nicolaï, on a parlé de la manière dont, sur le terrain, on pouvait espérer avoir des succès UDR-RN au sénatorial de septembre. Avec Charles-Henri Gallois, on a abordé une partie du programme économique du Rassemblement national. J'aimerais avec vous parler de l'international et notamment de ce contexte de l'Union européenne dans lequel le Rassemblement national va devoir inscrire son action, et donc un contexte qui, pour le moment, effectivement, est un boulet attaché au pied de la France. Tant qu'on ne sort pas de l'Union européenne, on est bien obligé de faire avec. Est-ce qu'il y a dans la manière dont l'Union européenne évolue, dans les succès de telle ou telle partie droite ici ou là, dans la manière dont l'Islande vient clairement d'expliquer au monde que l'Union européenne n'était pas attractive, est-ce qu'il y a les prémices d'une autre Union européenne avec laquelle on pourrait plus facilement faire entendre une voix nationale ?
J'aimerais vous répondre oui, mais malheureusement, je crois que ça va de pire en pire et qu'on est dans une sorte de course de vitesse entre l'Union européenne et les États. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je me souviens, il y a 10-15 ans, on parlait dans les élections, on disait, voilà, il y a les fédéralistes et ceux qui veulent une confédération, pour faire simple. Aujourd'hui, on n'en parle plus, mais en réalité, c'est bien pire. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne a compris qu'afficher drapeau déployé en disant « on veut un gouvernement unique européen qui, en réalité, prend les compétences des États », eh bien, ça a hérissé les États. Je crois que le référendum qu'il y avait eu en 2005 qui a a servi de leçon à l'Union européenne. Et donc l'Union européenne aujourd'hui avance cachée avec une formidable opportunité qui est vraiment pour elle un vecteur qu'elle n'a pas provoqué, je le dis tout de suite, qu'elle n'a pas provoqué mais qu'elle sait utiliser avec habileté, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, ça fait maintenant bientôt 7 ans que je suis député européen. Je rappelle que j'étais 25 ans député français et je vois la manière dont ça fonctionne différemment et surtout comment en France, on ne perçoit pas le danger et la menace. Parce qu'à mon avis, le débat le plus important, je sais que certains vont me dire que je prêche pour ma paroisse, mais bien sûr que la retraite, c'est important. Bien sûr que l'économie, c'est important. Mais en réalité, la question, c'est est-ce que la France continuera d'exister? Et aujourd'hui, petit à petit, bien, j'ai envie de vous dire, la question, c'est on continuera d'exister, mais est-ce qu'on sera simplement une province de la commission, administrée par la Commission européenne, où on laissera des pouvoirs un peu comme on laisse aux régions, aux départements en France, ou est-ce qu'on sera encore vraiment autonome? Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit qu'en réalité, grâce aux crises, l'Union européenne avance cachée. Alors, plus personne ne parle de fédéralisme, parce que, je le répète, la fédération, les gens ont compris que ça voulait dire que les États n'avaient plus de pouvoir. Mais c'est beaucoup plus subtil. Vous savez, l'Union européenne, c'est devenu une sorte de religion, je pèse mes mots, une sorte de religion où tous ceux qui attaquent l'Union européenne sont forcément des gens qui sont, selon les jours, manœuvrés par la Russie, manœuvrés par les Chinois, manœuvrés par je ne sais qui. Et en réalité, prenons les deux dernières crises. La crise du Covid. La crise du Covid, ça a été une excellente chose pour dire on va s'occuper de la santé. Pourquoi? Dans les traités, vous avez des compétences qui sont fixées par l'Union européenne. Je rappelle que la principale compétence, par exemple, et la première, c'est sur les traités commerciaux internationaux. Quand un chef d'État français vous explique qu'il s'opposera au Mercosur, etc., il se fout de la gueule du monde. Et les partis qui jouent à dire « Ah ben peut-être que ça va marcher » sont des naïfs ou des hypocrites, puisqu'en réalité, et c'est l'un des rares exemples dans les traités, depuis maintenant plus de 15 ans, l'Union européenne est totalement compétente pour les traités internationaux, et totalement compétente, ça veut dire qu'elle peut décider à la majorité qualifiée, ça veut dire que s'il y a 2 ou 3 États qui s'y opposent, eh bien elle peut quand même passer outre. Et donc quand M. Macron a fait son cinéma depuis le début en disant qu'il allait s'y opposer, que la France était la France, et que, etc., ben, il y a 3-4 États qui s'y sont opposés et ça a été signé. Et ça, c'est le rêve pour l'Union européenne, c'est-à-dire agréger des sujets où désormais il n'y a plus besoin d'unanimité, mais de majorité qualifiée. Or, le problème, c'est que pour les affaires étrangères, eh bien, c'est toujours l'unanimité sur le papier. Alors, pour essayer d'être clair avec les auditeurs, première crise, je reviens à ce que je disais, le Covid. C'est un très bel exemple. Quand les choses marchent en Europe, on dit c'est grâce à l'Europe. Et si les choses ne marchent pas, on dit ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de pouvoir pour l'Europe. Il faut plus de pouvoir pour que ça marche. Et c'est l'exemple aujourd'hui que vous avez eu, enfin aujourd'hui, qu'on a eu malheureusement pendant le Covid, où on vous a tous expliqué il faut par exemple acheter les vaccins en commun. Je ne rentre pas dans la logique faut-il ou non des vaccins, mais il faut acheter des vaccins en commun. Et donc, on a acheté des vaccins en commun au niveau de l'européen. Alors, il y avait les bons vaccins, les mauvais vaccins. Il y en a qu'on a essayé, d'autres qu'on n'a pas essayé. Ça ne vous a pas échappé qu'en général, c'était que des vaccins anglo-saxons. Et puis surtout, il n'y a aucune transparence. Parce qu'à partir du moment où on a confié cette compétence à la Commission européenne, on a eu aucune information sur le prix, les marchés, etc. J'ai été député et d'opposition comme de la majorité. En France, je le dis, il y a un vrai Parlement qui, quand il a besoin d'informations, peut débarquer dans un budget, peut débarquer pendant dans un ministère et exiger les documents des budgets. En France, ça n'existe pas. En Europe, ça n'existe pas. Alors, les députés ont dit quand même, on voudrait savoir comment on a dépensé tant de milliards, quel était le prix. Alors là, on a perdu d'abord des mois et des mois. On nous a dit, c'est confidentiel. Et puis après, on nous a dit, vous pouvez consulter les documents au sous-sol sans papier, c'est pas une blague, sans papier, sans prendre de notes et sans appareil photo, ni rien. Donc vous consultiez les documents où tout le truc important était rayé. Mais petit à petit, comme ça, l'Union européenne a cannibalisé la politique de la santé. Et maintenant, on est dans une guerre que, je le répète, l'Union européenne n'a pas cherché. Je pense que l'OTAN l'a un peu provoqué, que la Russie l'a déclenché, ou plutôt l'a redéclenché, puisque pour moi, ça a commencé avec Maïdan bien avant. Et donc là, on a une opportunité extraordinaire. Tous les jours, on explique dans toute l'Europe que la Russie va nous attaquer. Et c'est assez extraordinaire. Si vous regardez, vous avez tous les deux mois, on vous dit, attention, les services danois ont fait une évaluation. Dans 3 ans, on va être attaqué par la Russie. Attention, les services britanniques, quand on sait la neutralité des services britanniques, on va être attaqué par la Russie. Et donc, vous avez, quand vous regardez les sondages faits en France, vous avez une formidable campagne de propagande qui porte ses fruits, à savoir que petit à petit, alors que c'était 40% il y a 2 ans, maintenant on a plus de 60% des gens qui ont peur de la Russie. Voilà. Et donc, si on a peur, si on a un ennemi, eh bien, il nous faut une armée commune. Et Mme von der Leyen, comme au niveau des vaccins, quand je dis Mme von der Leyen, j'inclus bien sûr toutes les commissaires, disent « Ah, mais on a la solution, c'est une armée européenne !» Et donc, si vous me permettez cette comparaison, on est devenu dans un on est en réalité en train de rentrer dans une sorte de fédéralisme sournois par touche impressionniste. Vous savez, un peu comme les peintres. Alors, tantôt, on prend la santé, tantôt, on prend la défense. Et le rêve, c'est même pas le rêve, c'est le projet annoncé, j'y reviendrai dans quelques secondes, le projet annoncé par Mme von der Leyen, c'est désormais d'avoir une armée européenne. Quand vous avez une armée européenne, ben vous avez forcément une politique étrangère européenne et en réalité, vous n'avez plus de compétences nationales. On gérera peut-être les autoroutes et je ne sais quoi, et c'est tout. Or, souvenez-vous du discours d'investiture de Mme von der Leyen quand elle s'est représentée pour la présidence de l'Union, de la Commission européenne. Il y a eu le congrès du PPE, elle a eu cette phrase que vous trouverez dans tous les journaux, y compris les journaux comme Le Monde, mais c'est tellement énorme qu'il ne s'en cache même pas. Elle a dit dans son discours, mon projet est de rendre l'armée européenne aussi irréversible que l'est désormais l'euro. C'est-à-dire que le projet est annoncé. C'est aujourd'hui, la priorité, c'est se saisir de cette occasion qui est cette guerre en Ukraine, qui est un drame, qui est voilà. Mais dans les drames, il y en a toujours qui profitent, pour en faire une occasion de fédéraliser, d'avoir une armée européenne, soyons clairs. Avec une armée européenne, après l'étape suivante, c'est forcément un commandement européen. Et donc, le commandement européen, ce sera une politique étrangère unique. Et là, on arrive à l'étape suivante. Eh bien, c'est de faire comme pour les traités internationaux, c'est-à-dire en réalité arrêter la règle de l'unanimité, puisque pour la politique étrangère, il faut aujourd'hui la règle de l'unanimité et avoir pour décider la politique étrangère une règle à la majorité qualifiée. Alors, j'anticipe votre question. Vous allez me dire, oui, mais M. Orban n'y est pas arrivé. Pourquoi Marine Le Pen y arriverait ? Eh bien, je vais vous répondre. Dans la vie, c'est comme dans l'Union européenne. Ou vous êtes bénéficiaire, ou vous êtes demandeur. L'Union européenne, quand je fais les conférences dans les écoles, je dis toujours, il y en a 9 qui payent, 19 qui... Pardon, oui, 9 qui payent, et le reste, donc 19 qui touchent, puisqu'on est 27. 9 États qui payent, qui sont les États contributeurs, c'est-à-dire ceux qui donnent de l'argent plus que ce qu'ils en reçoivent. Et 19 qui touchent, au contraire, plus que ce qu'ils donnent. Alors, ce n'est pas compliqué. Quand vous êtes dans la situation des bénéficiaires, ben, d'abord, vous voulez toujours plus d'Europe. Et puis surtout, si jamais vous avez une politique différente et que vous n'êtes pas d'accord et que vous bloquez, par exemple, la règle de l'unanimité, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé d'abord avec la Pologne et ensuite avec la Hongrie. C'est-à-dire que l'Union européenne se comporte comme un vulgaire maître chanteur. Vous savez, avant l'Union européenne, pour plaire, essayait de faire rêver. Aujourd'hui, elle fait chanter, je pèse mes mots. C'est-à-dire, ah, les Hongrois, ben, vous avez élu déjà 3 fois le Fidesz avec M. Orban. Ben, écoutez, si vous ne changez pas de gouvernement, on ne vous donnera pas les subventions. Et vous, M. Orban, eh ben, cette fois, on a besoin que vous ne vous absteniez, que vous votiez pas contre, puisqu'il faut la règle de l'unanimité. Et je vous rappelle que ça s'est passé comme ça à la fin, c'est-à-dire qu'on lâchait à ce brave Viktor Orban de temps en temps 1 milliard, 2 milliards, alors qu'on lui en devait bien plus, à condition que ils sortent de la salle, ils ne participent pas au vote, ou en réalité, qui laissent l'unanimité se faire, puisque l'unanimité, c'est toujours l'unanimité des présents, de ceux qui votent. Et donc, pourquoi ça ne peut pas marcher avec la France? Pourquoi ça ne peut pas marcher avec l'Allemagne? Pourquoi ça ne peut pas marcher avec 9 pays? Ben, parce que ces 9 pays, c'est ceux qui donnent plus. Donc, Madame Le Pen, bonjour, vous ne voulez pas voter tel ou tel sujet sur la politique étrangère? Eh bien, on vous supprime les dotations européennes. Et dans ce cas-là, Madame Le Pen, comme tous les autres responsables d'État excellentaires, peut dire, vous me supprimez mes dotations, ce n'est pas grave. Moi, je supprime ce que je vous donne et je serai gagnant. Puisque n'oubliez jamais que l'Union européenne, et je le dis à tous vos auditeurs, ce n'est pas de l'argent magique. C'est de l'argent payé par les États, ce qu'on appelle les dotations d'État. Or, quels sont les principaux financeurs? L'Allemagne, 22%. La France, 18,5%. Et ensuite, c'est l'Italie qui, si ma mémoire est bonne, est à 13%. Je rappelle donc une fois de plus, par exemple, que quand vous entendez Mme von der Leyen dire depuis le 1er janvier « on donne 90 milliards à l'Ukraine », ben, prenez votre règle de 3, je ne suis pas très bon, 18% de 90 milliards, ça doit faire 2 fois 9, 18, ça doit faire 16 ou 17 milliards qui sont donnés par les Français. Ils sont donnés par les Français. Et donc, en réalité, ben, vous ne pouvez pas faire chanter un État qui est donateur. Parce que, vous avez compris, le chantage qui consiste à dire « je ne vous donne pas vos subventions si vous ne votez pas ce que la Commission européenne veut ben », vous pouvez le faire malheureusement sur la Hongrie, qui est un État qui reçoit plus, malheureusement sur la Pologne, qui est un État qui reçoit plus que ce qu'il donne, mais pas sur la France, pas sur l'Allemagne, pas sur l'Italie, pas sur les Pays-Bas. Voilà. Et donc, la question qui en fait est vraiment importante, est-ce que l'arrivée de Marine Le Pen peut changer quelque chose? La réponse est oui. Oui, parce qu'on n'a pas les moyens de faire chanter un pays qui est créditeur. Vous remarquerez que les réductions de subventions, de donations de l'Europe, elles ne sont jamais faites sur ces pays-là. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on emmerde, il n'y a pas d'autre mot, toute une série de pays si leur déficit budgétaire est trop important. Mais bon, forcément, quand c'est la France ou quand c'est d'autres, on a un avertissement, on a un blâme, mais bon, il n'y a aucune sanction.
Il n'y a aucune sanction. Et même Charles-Henri Gallois rappelait que l'Allemagne a réussi à avoir un rabais, donc la France pourrait d'ailleurs elle-même négocier ce rabais. Juste avant que je vous pose une dernière question, Maître de Genvry, une réaction?
Oui, merci beaucoup Richard de me passer la parole et bonjour Thierry Mariani, j'avais fait campagne bonjour. Avec vous à Paris pour les municipales.
Oui, c'est...
c'est très intéressant ce que vous dites sur l'armée européenne et la circonstance de la guerre en Ukraine. Parce que alors, vous me dites si je me trompe, mais je trouve ça intéressant de faire un petit historique et de voir comment tout ça s'est embringué. De mémoire, la France a toujours voulu vendre son armée européenne. Parce que la France, c'est le seul pays du monde avec les États-Unis qui a une capacité de production militaire complète. Donc, elle a toujours voulu être la figure de proue de cette armée européenne. Sauf que l'Allemagne n'en voulait pas. Elle a dit finalement, nous, on est dans l'OTAN, les États-Unis sont là, donc votre armée européenne, nous, ça ne nous intéresse pas. Et il y a la guerre en Ukraine. Et là, comme par hasard, notre président de la République... Emmanuel Macron, alors là, il voit Le Pen. Mais la Russie va envahir l'Union européenne. En plus, coup de chance, Trump dit finalement, vous allez vous débrouiller. Donc, est-ce que c'est pas un peu coup de fil blanc, tout ça? C'est parfait pour vendre cette armée dont la France a toujours voulu.
Bah, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que cette guerre est un drame, je rappelle, mais une formidable opportunité pour l'Union européenne qui veut plus de pouvoir. Voilà, qui veut plus de pouvoir. Et quand vous expliquez à tous les citoyens européens, même au fin fond du Portugal, que les tanks russes qui depuis 2 ans, excusez-moi, ne bougent pas en Ukraine et n'arrivent pas à percer le front réellement, eh bien, vont les menacer, bah, dans ce cas-là, il faut absolument une armée européenne.
Et ça, serait...
Et le jour où vous ne contrôlez plus, après votre monnaie, votre armée, qu'est-ce que vous n'êtes plus un État, excusez-moi, je veux dire.
Vous n'êtes plus un État, et d'ailleurs, c'est. D'ailleurs, pour parler du fédéralisme, c'est ce que Bruno Le Maire a proposé il y a quelques jours. Il propose de fusionner des États européens. On n'a déjà plus notre monnaie, et Thierry Mariani a tout à fait raison de relever ce point. C'est que si on nous retire la gestion des relations internationales, et encore, on l'a perdu à moitié en confiant à l'Union européenne la compétence exclusive de conclure des traités. Alors, c'est que sur le commerce pour l'instant, mais on voit bien le problème avec le Mercosur. C'est-à-dire que et tout ça, pour revenir au début de notre conversation avec la hiérarchie des normes, l'Union européenne conclut des traités dont nous, on n'a absolument aucun mot à dire, et ça va s'appliquer en France, supérieure à nos lois françaises.
Alors, je suis content que vous reveniez sur le Mercosur, parce qu'on a appris hier, si je ne m'abuse, que justement l'Union européenne avait décidé de suspendre l'accord sur le Mercosur, notamment sur l'importation de la viande brésilienne. Alors, je voudrais poser la question à Thierry Mariani, et est-ce une espèce de manœuvre habile pour faire croire à la sincérité de l'Union européenne, qui a expliqué qu'elle allait mettre en place des contrôles au moment où c'était dit? Tout le monde disait que ces contrôles étaient extrêmement compliqués à mettre en place, que les processus de sanctions et de révision de l'accord étaient horriblement compliqués, que le fait de suspendre l'accord, c'était avec des règles aussi chinoises que celles que l'Union européenne est capable d'inventer. Là, pour le moment, c'est une déclaration, et je ne suis pas allé vérifier à Rungis et au Havre si les conteneurs de bœuf frigorifié argentin continuent à débarquer, mais l'Union européenne annonce suspendre parce qu'elle n'a pas eu les garanties sur la qualité de la viande, la qualité de brésilienne. Que pensez-vous de cette décision de l'Union ?
Écoutez, je pense que c'est une décision qui est motivée, mais je souris pourquoi ? Parce qu'en réalité, les quantités de viande qu'on importe avec le Mercosur sont ridicules par rapport aux quantités de viande, notamment de poulet, qu'on importe de l'Ukraine sans aucun contrôle. Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas membre, entre guillemets, de la zone économique, on n'est pas membre de l'Union européenne, mais on a passé avec l'Ukraine toute une série d'accords pour que désormais ils puissent, en matière de soutien de guerre, faire rentrer leur production agricole sans droit de douane et sans contrôle. Et alors, on a passé ici même des délibérations. Je vais vous en prendre une par exemple. Je suis originaire du Vaucluse. Le Vaucluse est une des régions d'un département où il y a le plus de production de semences agricoles, notamment pour toute une série de fruits et légumes. Eh bien, maintenant, on accepte même les semences venant d'Ukraine sans contrôle parce qu'on dit que les certificats ukrainiens ont la même valeur que les certificats européens. Alors, pour avoir un contrôle sanitaire d'un inspecteur français, excusez-moi, il faut bosser et montrer patte blanche. Je me demande comment un pays qui sombre en permanence sous la corruption peut donner des certificats qui ont une valeur. Je vous rappelle, par exemple, que le roi du poulet, M. Yuri Kosuk, qui possède une superficie équivalente au Vaucluse, fait rentrer aujourd'hui son poulet ukrainien en France, enfin en Europe, et il n'y a aucun contrôle. Donc peut-être qu'on est en train de bloquer quelques centaines de tonnes de poulet brésilien, mais rassurez-vous, si vous voulez vous empoisonner, vous avez le poulet ukrainien qui, lui, arrive sans contrôle. Alors, je vous rappelle qu'on a fait ça pour aider les pauvres agriculteurs ukrainiens. En réalité, plus de 80% de la production de ces poulets en Ukraine est contrôlée par un oligarque qui a son siège qui habite à Londres et dont la société est à Chypre.
Ben, oui, il n'y a pas vraiment d'aide directe aux Ukrainiens. Thierry Mariani, voilà, il nous reste à peine 3 minutes. Vous disiez tout à l'heure que la France est un État qui pèse encore dans l'Union européenne parce que même si ses finances sont dans un état lamentable, c'est un contributeur net, que c'est une posture, que c'est une position dont l'État français ne profite pas actuellement pour essayer d'influer les choses dans le bon sens. C'est normal, on a un président qui déteste la France et qui n'a que l'Union européenne à la bouche. Et vous disiez que Marine Le Pen, elle, justement, serait ce président français capable de défendre les intérêts français sans quitter le cadre de l'Union européenne. Est-ce une thématique, à votre avis, qui peut surgir dans la campagne présidentielle? Pour le moment, l'Union européenne n'est pas véritablement un sujet.
J'espère que ça va surgir parce que pour moi, c'est la principale question d'avenir. Est-ce que la France doit encore rester indépendante? Je répète, je ne méprise absolument pas les autres sujets, mais vous changez un âge de retraite avec une loi. Une fois qu'on aura donné la défense, la politique étrangère, après la monnaie, après les traités internationaux à l'Europe, excusez-moi, il ne nous restera plus que les yeux pour pleurer. Et donc, à mon avis, ça devrait être l'un des principaux sujets. Est-ce que oui ou non, on veut encore exister dans l'Europe. Je vous rappelle quand même que c'est, je sais qu'il ne reste plus beaucoup de souvenirs, mais si ma mémoire est bonne, en 1963 ou 1965, alors qu'on était au début de l'Union européenne, un certain général de Gaulle, à un moment, a fait ce qu'on appelle la politique de la chaise vide, parce que la Commission, déjà sous l'influence allemande, essayait de prendre de plus en plus de pouvoir, et comme il y avait les règles de l'unanimité, il a bloqué toute l'Europe. À l'époque, il n'y en avait que 6 États, mais il a bloqué toute l'Europe. Et finalement, les Allemands et la Commission européenne sont revenus en disant « Bon, ok, puisque la France bloque tout, et puisque… » Voilà. La question est très simple. Est-ce qu'on a envie de quelqu'un qui se fasse aimer par les eurocrates, ou est-ce qu'on a envie de quelqu'un qui soit prêt à en prendre plein la gueule, par moment peut-être dans certaines presses, pour soutenir et maintenir les intérêts de la France et son indépendance, enfin, ce qui nous reste. Voilà. Et je pense qu'il n'y a que Marine Le Pen qui peut le faire. Voilà.
C'est certain qu'elle a été sacrément entraînée à s'en prendre plein la gueule dans la presse. Donc là, ça ne va pas véritablement la changer comme exercice.
Oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça, je vais vous dire. Vous le savez, j'étais aux Républicains pendant des années. On était traumatisés par ce que j'appelle la dictature de la revue de presse. C'est le matin, on regardait Le Monde, on regardait Libé, on regardait je ne sais quoi, et qui nous disait « Mon Dieu, les articles sont mauvais, pourquoi ils sont si mauvais que ça ?» L'avantage de Marine Le Pen, c'est que se faire allumer, j'allais dire, c'est son quotidien depuis des années. Et donc, je suis très heureux que ce soit elle la candidate, parce que je pense qu'en politique, il faut savoir si on veut plaire ou convaincre. Et je sais qu'avec elle, sa première priorité, ce n'est pas plaire, mais c'est convaincre et essayer de défendre la France. Voilà pourquoi, même si je ne suis pas d'accord à 100%, mais à 98%, sur ce qu'elle dit, je suis très heureux qu'elle soit candidate et j'espère qu'elle expliquera ou que les Français comprendront que cette élection présidentielle, ce n'est pas qu'une question de voile ou d'âge de départ à la retraite, mais c'est est-ce que vous voulez continuer à être Français et est-ce que vous voulez continuer à ce que notre Parlement, notre gouvernement contrôle autre chose, excusez-moi, que des certificats ou des textes bruxellois.
Eh bien, merci mille fois Thierry Mariani, ça tombe bien, vous avez terminé pile à l'heure. Merci beaucoup Maître de Genvry d'être resté avec nous jusqu'au bout. Et bien sûr, à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, rendez-vous demain dans un autre Restons Courtois, celui-ci animé par Arthur de Vatrigan.
Ça suffit maintenant.